Père Frédéric Mentz, bonjour.
Et bienvenue. Donc, c'est de Jérusalem que je vais vous proposer une série de conférences sur les patriarches. Bien sûr, en suivant la méthode canonique et non pas la méthode scientifique ou appelée la méthode historico-critique. Bon, ce soir, nous allons parler de Père Abraham, Abraham notre Père. Vous savez que Ben Sira, le sage, au chapitre 44, dans la galerie des ancêtres qu'il dresse, nous présente les patriarches de cette façon. Je vous cite le texte de Ben Sira au chapitre 44. « Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Le Seigneur a créé la gloire à profusion. Il manifeste sa grandeur depuis toujours. Abraham, notre père, fut grand. D'une multitude de peuples, il est le père. Personne n'a jamais égalé sa gloire. Abraham observa la loi du Très-Haut. Il entra dans son alliance. Il inscrivit cette alliance dans sa chair. Et jusque dans l'épreuve, Abraham a été trouvé fidèle. Aussi Dieu lui a-t-il assuré par serment que les nations seraient bénies en sa descendance, qu'il les multiplierait autant que la poussière sur la terre, qu'il exalterait ses descendants comme les étoiles. Il leur donnerait un héritage allant de la mer à la mer et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. » Fin de citation. Et l'histoire des patriarches est un peu, si vous voulez, une histoire de famille, où Israël raconte les biographies de ses ancêtres, avec les principaux événements qui les jalonnent, les naissances, les mariages, les morts. C'est une histoire populaire, mais c'est une histoire essentiellement religieuse, d'où se dégagent trois idées forces. Première, un seul Dieu. Deuxième idée, un seul peuple. Troisième, une seule terre. Dieu choisit un peuple et lui promet une terre. Il lui prédit récompense et postérité. Et ces promesses se situent dans le cadre d'une alliance. Il faudra approfondir cette notion d'alliance. Une disposition de bienveillance où Dieu engage la parole avec Abraham. Lorsque je pense à Abraham, c'est tout d'abord le texte de Blaise Pascal qui me revient en mémoire. Vous le connaissez, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non pas le Dieu des philosophes et des sages, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Ça, c'est le fameux mémorial de Blaise Pascal, écrit sur un tout petit parchemin et retrouvé, après sa mort, cousu dans son habit. Et ce mémorial exprime non pas une réflexion intellectuelle qu'un sage comme lui peut concevoir de Dieu, mais le sens vivant, le sens éprouvé de sa présence. Pascal note même le moment précis où il a ressenti cette réalité, l'ayant enfin rencontré. C'est le soir du 23 novembre 1654. Dieu n'est pas le Dieu abstrait, le Dieu cosmique, non. Il est le Dieu d'une personne, le Dieu d'un appel, celui qui a appelé Abraham, celui qui a appelé Isaac et Jacob, le Dieu qui est une certitude, qui sent, qui est joie. Un philosophe comprend souvent mieux les textes qu'un exégète. Vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, juifs, chrétiens, musulmans se réclament du Père Abraham. Aujourd'hui, pour l'islam, c'est la naissance du prophète Mohammed. Mais ils font toujours mémoire aussi de Ibrahim. Donc, avec la vocation d'Abraham, c'est l'histoire du salut qui commence. Le nom est initialement Avram. Avram qui signifie « le Père est exalté ». Et ce nom sera changé et deviendra Abraham, ce qui signifie « le Père d'une multitude de nations ». Les mentions, les attestations, si vous voulez, d'Abraham en dehors de la Genèse, nous les avons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, au chapitre 51 d'Isaïe. Ces attestations indiquent que le patriarche fut apparemment un personnage connu bien avant l'exil de Babylone. Depuis l'époque du prophète Élie, le Dieu national d'Israël est toujours désigné comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous savez, au premier livre des Rois, au chapitre 18. Il est fort probable que les premiers récits sur Abraham soient à chercher dans le sanctuaire de Hébron. Hébron, qui était au 8e ou 7e siècle la capitale du Négev, c'est-à-dire du sud du pays. Et à l'époque babylonienne, ces narrations ont été regroupées pour justifier le droit des Judéens non exilés au pays. Je vous ai déjà cité un archéologue israélien fameux, Finkelstein, Israël Finkelstein. Pour lui, l'histoire, ou plutôt le mythe des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, ses fils, considérés comme les pères de la nation israélite, ce mythe n'a rien d'historique. L'analyse serrée des détails du texte biblique, ainsi que les anachronismes ajoutés aux découvertes de l'archéologie, démontrent que ce texte, selon lui, a été composé quelques 1500 ans après les faits qu'il prétend décrire. Et ses rédacteurs ont inventé une épopée nationale des commencements. Pour d'autres exégètes, dans la Genèse, le cycle narratif Jacob est plus ancien, Jacob-Israël. Celui d'Abraham, le cycle d'Abraham et d'Isaac débuterait en Juda, au début de la grande monarchie, l'époque des rois d'Israël. Mais la polémique contre les sanctuaires réduisit l'ensemble à l'histoire de la destruction de Sodome, épisode le plus souvent cité dans la suite, et déjà à partir du 8e siècle, quand en Palestine survint un séisme assez fort qui est mentionné par le prophète Amos. Abraham obtient la priorité à la fin de l'époque royale à cause de la promesse de la terre. C'est le thème de la terre qui est fondamental. Vous voyez que les hypothèses ne manquent pas parmi les spécialistes même. Mais ces hypothèses valent ce que valent les arguments qui les étaient. Cependant, Abraham n'était ni un juif, ni un chrétien, ni un musulman. Abraham fut tout d'abord un homme juste qui a répondu à l'appel du Seigneur. Bien sûr, sa foi ancrée dans les traditions ancestrales a dû se purifier au fur et à mesure que le visage du vrai Dieu se dévoilait à lui. Une chose est certaine, si les exégètes actuels ne croient pas en l'historicité d'Abraham, Marie, la mère de Jésus, a cru en Abraham parce qu'elle le mentionne dans son Magnificat, dans sa prière. Il s'est rappelé de sa miséricorde comme il avait promis à nos pères, comme il avait promis à Abraham et à sa race à jamais. C'est bien cette attitude de foi qui lui est comptée comme justice. Saint Paul qui l'affirme dans la lettre aux Romains au chapitre 4. L'évangile de Jean au chapitre 8 présente Jésus comme celui qu'Abraham a attendu, en qui il s'est réjoui. Et l'aspiration au repos est connue dans la Bible sous le nom du Saint d'Abraham. C'est Saint Luc qui rappelle cette expression au chapitre 16 de son évangile. Il faudrait relire les catéchèses d'Origène, Origène, le fondateur de l'école biblique de Césarée maritime, qui sont publiées dans les sources chrétiennes, pour justement voir le sens spirituel de la geste des patriarches. Je vous cite simplement un tout petit texte dans le commentaire de Saint Jean. Origène écrit « Il faut considérer toute l'histoire d'Abraham et accomplir spirituellement chacune de ses actions. À commencer par celle-ci, quitte ta terre, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père pour la terre que je te montrerai. Ceci est dit non seulement à Abraham, mais à quiconque doit devenir un enfant d'Abraham. » Voilà les paroles d'Origène. Donc ce n'est pas le sens historique qu'il faut retrouver, c'est le sens spirituel. Voilà donc ce que nous allons faire. Plutôt que d'étudier les sources hypothétiques du Pentateuque, la source sacerdotale, le deutéronomiste, l'éloïste, le yaviste, il faut retrouver le message que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Même si de l'existence historique d'Abraham et de Sarah, nous ne savons pas grand-chose, leur postérité spirituelle est immense. Et ceux qui se rattachent au nom d'Abraham sont aussi nombreux que le sable de la mer. Là donc, ce qui est important. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de nous attarder à toute l'histoire d'Abraham. Je prendrai simplement quatre points. Les récits bibliques qui nous parlent d'Abraham, les plus connus, c'est sa vocation. Chapitre 12 du livre de la Genèse. Le départ d'Ur en Chaldée pour un pays que Dieu lui a promis. Deuxième point, que nous allons approfondir un peu, l'apparition de Dieu au chêne de Mamré, avec l'annonce de la naissance d'Isaac. Le père Abraham avait 100 ans et il n'avait toujours pas d'enfant de Sarah. Sarah avait 90 ans. Mais Dieu lui apparaît et lui promet qu'il aura un fils. Troisième épisode que nous allons approfondir, l'épisode de Sodome et de Gomorre, au chapitre 19 de la Genèse, qui est de grande actualité, je vous en parlerai tout à l'heure. Et le dernier point, ce sera la naissance et le sacrifice d'Isaac, au chapitre 21 plutôt, du livre de la Genèse. Voilà donc, c'est ça qui nous importe. Abraham est vraiment une figure universelle. Il y a une religion d'Abraham qui déborde toutes les religions et toutes les confessions particulières. Je commence donc par la vocation d'Abraham. Abraham est originaire d'un clan araméen polythéiste, nous savons du livre de Josué au chapitre 24. Et ce clan est établi à Ur, en basse Mésopotamie. Son père Terah, qui est descendant du fils aîné de Noé, Sem, est en route vers Canaan. Et il s'est arrêté à Haran. Vous avez ça au chapitre 11 du livre de la Genèse. Et à l'âge de 75 ans, Abraham reçoit de Dieu l'ordre de quitter Haran pour le pays de Canaan, qu'il parcourt du nord au sud avec Sarai, avec Lot, ses bergers et leurs troupeaux. Le texte de la vocation d'Abraham est bien connu, débute en hébreu « Lech lecha »« Quitte ta terre, quitte ta famille, tu seras une bénédiction. » Dieu donnera à Abraham une terre, il le comblera, il le rendra fécond. L'expression « Lech lecha »« Quitte ou va pour toi » est traduite en général par les Juifs, en particulier par Buber, le grand philosophe, « Va pour ton bien ». Va vers toi. Abraham est invité à faire un pèlerinage intérieur. Rentre en toi. Et Abraham a cru en Dieu qui le lui compta comme justice. Donc c'est la foi d'Abraham qui est fondamentale. D'après la tradition juive, le père d'Abraham, Terah, était fabricant d'idoles. Un jour que Terah était parti en voyage, Abraham a pris un bâton. Et il a cassé toutes les statues, les petites statuettes que son père vendait. Et à son retour, pour se justifier, Abraham dit que les statuettes avaient faim. Lorsqu'une personne est venue apporter de la farine, toutes les statuettes se sont précipitées sur la farine et se sont disputées. Et le résultat est visible, toutes les statuettes sont cassées. Terah se moqua de son fils qui racontait des sornettes. Et une discussion suivit entre Abraham et son père Terah sur l'idolâtrie et la vérité à raconter aux gens crédules. Tout ça, c'est la tradition juive, ce n'est pas dans la Bible. Enfin, Terah décidait de donner une bonne instruction à son fils qui n'était pas convaincu qu'il fallait tromper les gens crédules. Mais donc, la tradition juive souligne qu'avant l'appel de Dieu, Abraham a déjà fait un pèlerinage intérieur, qui le préparait à écouter, à suivre l'appel de Dieu. Abraham se rend d'abord à Sichem, en Samarie, à Bethel, à Hébron, à Beersheba, et construit chaque fois un hôtel en l'honneur du Seigneur. Et il atteint le Négev, le sud du pays, d'où une famine le chasse vers l'Égypte. Et sur la route, Abraham demande à Sarai, sa femme, de déclarer aux Égyptiens qu'elle est sa sœur, car elle était très belle. Et il pense qu'elle sera tuée s'il se présente comme mari d'une telle femme. tandis qu'avoir une sœur aussi belle lui vaudra d'être bien traitée. Alors arrivé, le pharaon s'attribue Sarai pour femme. Elle est prise dans son palais. Abraham reçoit de nombreux cadeaux. Mais le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Et Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, lui, sa femme et tout le pays. Entre parenthèses, Sarai est la mère du peuple élu. Les patriarches n'auraient jamais été ce qu'ils ont été sans leur épouse. En effet, Sarai possède une vue plus juste des nuances de caractère et elle a des dons prophétiques. Comme toute femme, elle est très intuitive. Ainsi Dieu dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre et écoute ce que te dit Sarai. » Genèse 21, verset 13. Origène, dans ses homélies sur la Genèse, de nouveau écrit, « Pour ce qui est de Sarai, dont le nom signifie chef de file ou prince dominant, je pense que Sarai représente la vertu morale. C'est l'homme sage et fidèle qui s'attache, qui s'unit à cette vertu. Tel un sage qui disait de la sagesse, « J'ai cherché à l'avoir pour épouse. » Aussi Dieu dit à Abraham, « Tout ce que dira Sarai, fais-le. » Cette parole ne se rapporte pas seulement au commerce charnel, puisque Dieu a déjà prononcé une autre phrase à l'adresse de la femme à propos de son mari. « Ton désir te portera vers ton mari, il dominera sur toi. » Si donc l'Écriture fait de l'homme le maître de la femme, comment se fait-il qu'elle puisse dire cette fois à l'homme « Tout ce que dira Sarai, fais-le » C'est lorsqu'on s'est adjoint la vertu en mariage. Il faut accomplir toutes les inspirations qu'elle suggère. Voilà le texte de Origène, le commentaire. Et donc, c'est Sarai, la femme d'Abraham, qui permet à la promesse de se réaliser. C'est elle qui aide Abraham à vivre sa foi en Dieu. Sarai, l'épouse belle et forte d'Abraham, voit son nom changer, elle aussi, en Sarai, ce qui signifie son élection, sa vocation d'être la mère d'Isaac. La mère des croyants. Sarai est décrite comme étant très belle, hospitalière, remplie de foi, douée d'humour, mais elle est stérile. Elle sera mentionnée dans les épîtres du Nouveau Testament 4 fois, au chapitre 4 de la lettre aux Romains, dans la lettre aux Hébreux et dans la première lettre de Pierre. Et tous ces passages montrent comment Dieu lui a permis de concevoir, de mettre au monde un fils en dépit de sa stérilité. Dieu lui-même est intervenu pour lui donner un fils. Elle est l'épouse croyante et la mère de la promesse. En Galates, au chapitre 4, 21, elle est mentionnée sans être nommée, elle annonce la Jérusalem d'en haut. Sa foi et son obéissance sont mises en évidence dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Et c'est ainsi que Sarai, la princesse, est la première des matriarches de l'Ancien Testament. Relisez la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3, où il présente justement Sarai comme une femme obéissante et également la mère des croyants. Je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais il faudrait relire également les commentaires qui sont faits dans la tradition juive. Ça, c'est le premier point. Abraham et Sarai, leur vocation, leur appel. Ils commencent par un pèlerinage intérieur et ensuite ils peuvent suivre la voix de Dieu. Deuxième point, la vision de Mambré, sur le chêne de Mambré. Abraham était un nomade. Sarai n'a plus l'âge d'avoir des enfants. L'avenir d'Abraham dépend totalement de la bonté de Dieu. Sarai, vous le savez, lui donne sa servante Agar, une égyptienne, comme épouse. Et de cette union va naître Ismaël. Abraham est âgé alors de 86 ans. 13 ans plus tard, après avoir reçu de Dieu l'ordre de se faire circoncire, ainsi que tous les hommes de sa maison, Abraham s'entend annoncer la naissance d'un fils de son épouse Sarai. Dieu le lui promet près du chêne de Mambré. Voilà le texte au chapitre 17. 18. Je te donnerai pour toi, pour ta postérité, la terre de tes pèlerinations, toute la terre de Canaan, comme possession éternelle. Dieu renouvelle tout d'abord Abraham, l'annonce de sa postérité à qui sera donnée une terre pour toujours. Et Dieu va imposer à Abraham le signe de la circoncision, le signe de l'alliance. Isaac est l'héritier des promesses et il naîtra d'un homme qui a 100 ans et d'une femme qui a 90 ans. La seule explication qui est donnée, nul, rien n'est impossible à Dieu. Au chapitre 18 du livre de la Genèse, Abraham reconnaît les trois hôtes qui passent dans le désert. Il les invite à rentrer sous sa tente. Il va leur laver les pieds. Il leur offre de la nourriture. Il fait tuer le veau pour eux. Il reçoit la promesse d'avoir un enfant alors qu'il a 100 ans. Mais la récompense de son hospitalité sera accordée à ses enfants. Parce qu'Abraham a offert du pain aux hôtes de passage, Dieu lui donnera la manne à ses enfants. Parce que Dieu a donné à boire à ses hôtes, Dieu donnera à ses enfants un pays où ruisselle l'eau. Parce qu'Abraham a fait tuer un veau pour ses hôtes, Dieu enverra des cailles lorsque ses enfants seront dans le désert et seront affamés. Chapitre 19 du livre de la Genèse, nous avons l'épisode de Sodome et de Gomorre. Vous connaissez bien le texte. Deux anges qui entrent dans Sodome vers le soir, tandis que Lot était assis à la porte de Sodome. Lot, Lévi, courut à leur rencontre, les salua, et il leur dit, « Je vous en prie, mes seigneurs, venez jusqu'à la maison de votre serviteur, passez-y la nuit. Vous laverez les pieds, et vous vous lèverez de bon matin pour continuer votre chemin. » Ils lui dirent, « Non, nous ne passerons pas la nuit sur la place de la ville. » Mais Abraham insista auprès d'eux, et ils s'en vinrent chez lui, ils entrèrent dans leur maison, plutôt Lot. Oui. Il leur fit un repas, il cuisit des pains azim, et ils mangèrent, et ne s'étaient pas encore endormis, que la population de la ville, population de Sodome, entoura sa maison, depuis les jeunes jusqu'aux vieillards, toute la population du même côté. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous en abusions, pour que nous les connaissions, dit le texte biblique. » Lot sortit vers eux au dehors, il ferma la porte derrière lui, « Mes frères, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas encore eu de rapport, n'ont pas connu d'homme. Je vais donc les faire sortir vers vous et faites-leur ce qui leur plaira. Mais ne faites rien à ces hommes, car ils sont venus pour passer la nuit à l'ombre de mon toit. » Il lui disait, « Ôte-toi de là. Voilà quelqu'un qui est venu séjourner chez nous, qui veut être juge de nos jugements. Nous allons à présent te faire plus de mal qu'à eux. » Et ils pressèrent l'homme, Lot, fortement et s'approchèrent pour briser la porte. Et c'est alors que l'ange de Dieu intervient et frappe tous ces gens-là de cécité, et depuis les plus jeunes jusqu'aux vieillards, et ils n'arrivent pas à trouver même la porte de sortie. Et c'est alors que Dieu va intervenir pour juger ce peuple de méchants. La parole de Dieu fit descendre sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, et devant le Seigneur du haut des cieux. Et il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. Et parce que la femme de Lot était du nombre des filles des Sodomites, elle regarda en arrière pour voir ce qui se passerait, et voilà qu'elle est changée en statue de sel. Voilà donc cette destruction de Sodome et de Gomorre qui est de nouveau à l'actualité. La Bible nous dit tout d'abord que Abraham a essayé d'intercéder pour ces criminels endurcis et il a fait un marchandage avec Dieu. Il a dit, s'il y a 50 justes dans la ville, tu ne détruiras pas la ville. Il ne les trouve pas. Il descend jusqu'à 40 et finalement il descend jusqu'à 10. Et il ne trouve pas 10 justes qui seraient en mesure de sauver la ville. Entre parenthèses, c'est de ce texte que les Juifs concluent la nécessité de prier en groupe de 10. Il faut toujours 10 hommes, ce qu'ils appellent le minyan. Donc, c'est interprétation de l'intercession d'Abraham qui est absolument fondamentale. Alors je disais que tout récemment, il y a une étude américaine qui a été publiée dans une revue Nature Scientific Reports qui veut prouver l'historicité de Sodome. Vous trouverez ce texte sur Internet. Voilà donc le texte, je vous le lis. Une civilisation ancienne dans le secteur de la mer Morte aurait été totalement anéantie par une explosion aérienne d'une puissance comparable à une arme atomique qui aurait été entraînée par la chute d'une météorite qui aurait détruit des villes et apporté du sel dans la terre il y a 3600 années, rendant la terre inhabitable pendant des siècles. Voilà ce qu'affirment les scientifiques dans cette étude publiée il y a à peine une dizaine de jours. Et les scientifiques ont également supposé que cet événement dramatique aurait pu servir de source d'inspiration au récit biblique de la destruction de Sodome. Les conclusions de cette étude, qui pendant des années a été réalisée par une équipe de scientifiques multidisciplinaires, et ayant pris part au projet de fouilles en Jordanie à Tel El Hammam. Ces résultats ont été publiés dans cette revue que vous trouverez sur Internet, Nature Scientific Reports. Voilà donc les éléments indiquant une mort soudaine, des destructions ayant entraîné l'effondrement des bâtiments, la fonte des poteries, laissant derrière un paysage désert carbonisé, ont entraîné la conclusion que les villes et que les implantations humaines environnantes avaient été anéanties par une explosion aérienne plus forte que l'explosion qui est survenue en Russie en 2008, où une météorite qui avait chuté a été explosée avec une 1000 fois plus d'énergie que la bombe atomique qui s'était abattu sur Hiroshima. Je parle de ça parce que très souvent, nous essayons de réduire la Bible à des genres littéraires. Tout ça, ça a été écrit pour montrer ceci et cela. Et voilà que des scientifiques de haut niveau, maintenant, arrivent à des conclusions qui semblent confirmer le texte. Le texte est historique, nous le savons. Mais l'histoire qui importe dans la Bible, c'est l'histoire du salut. Donc, ça vaut la peine de lire ce rapport et ça vaut la peine de lire l'Écriture avec beaucoup de foi, surtout. Alors, donc, le troisième point, l'épisode de Sodome et Gomorre, qui souligne de nouveau l'intercession d'Abraham. Abraham qui est un grand intercédeur. Le quatrième point que je voudrais souligner, c'est l'épreuve d'Abraham. Abraham, comme tous les amis de Dieu, a été mis à l'épreuve. La foi doit être purifiée par l'épreuve. La souffrance est absolument nécessaire pour vivre l'élection, car c'est l'amour qui crée la souffrance. Et Dieu va tenter Abraham pour lui demander d'offrir son fils qu'il avait attendu, il avait 100 ans. Et maintenant, Dieu lui demande de lui offrir son fils. Il y a un philosophe danois, Kierkegaard, qui a fait un très très beau commentaire du chapitre 22 du livre de la Genèse. Et il voit en Abraham le type du croyant qui est tragique, la foi a quelque chose de tragique. Je commence donc par vous lire le texte du chapitre 22, mais cette fois-ci dans la version de la synagogue, la version du Targum. Le Targum, c'est le texte que les Juifs lisent lorsqu'ils sont à la synagogue en train de prier. Ce n'est pas le texte massorétique, si vous voulez, de la Bible qui les intéresse, mais c'est le texte commenté, d'une certaine façon, qu'ils vont lire. Chapitre 22. Dans le Targum Néophyti. Après ces événements, il advint que le Seigneur éprouva Abraham avec une dixième tentation. Nous avons tellement fait de commentaires, Dieu ne nous tente pas, ainsi. Il ne nous tente pas au-delà de nos forces, mais il tente quand même parce que tous ses amis, il faut les mettre à l'épreuve. Il lui dit, Abraham répondit, Me voici. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays du mont Moria. Le mont Moria, c'est le mont du temple. Et là, offre-le en holocauste sur la montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne, prit avec lui les deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, se leva, s'en alla vers le lieu que le Seigneur lui avait dit. Le troisième jour, Abraham se leva les yeux, il vit l'endroit de loin. Abraham dit à son serviteur, « Restez ici avec l'âne, tandis que moi et le garçon, nous irons là-bas, nous prierons, nous reviendrons près de vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste, il le plaça sur son fils Isaac. C'est Isaac qui porte le bois de son sacrifice. Et saint Jean, dans son évangile, va nous montrer que Jésus, nouvel Isaac, lui aussi va porter le bois de la croix, comme Isaac avait porté le bois de son sacrifice. Abraham prit en sa main le feu, le couteau, et ils allèrent tous les deux ensemble d'un cœur parfait. Isaac parla à son père Abraham et dit, « Mon père, me voici mon fils. Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste? Tu as oublié l'agneau ?» Abraham dit, « Non, devant le Seigneur a été préparé un agneau pour l'holocauste. Sinon, c'est toi Isaac qui est l'agneau de l'holocauste. » Isaac est appelé l'agneau de l'holocauste. Ils allaient tous les deux ensemble d'un cœur parfait. Ils arrivèrent à l'endroit que le Seigneur avait dit. Abraham y construisit l'autel. Il arrangea le bois, attacha à son fils et le plaça sur l'autel au-dessus du bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour sacrifier son fils Isaac. Isaac prit la parole et dit, « Mon père, lis-moi bien pour que je ne te donne pas des coups de pied, de telle sorte que ton offrande soit rendue invalide, que je sois précipité dans la fosse de la perdition dans le monde à venir. » Les yeux d'Abraham étaient fixés sur les yeux d'Isaac. Les yeux d'Isaac étaient tournés vers les anges d'en haut. Abraham ne les voyait pas. À ce moment-là descendit des cieux une voix qui disait, « Venez, voyez deux personnes uniques dans mon univers. L'une sacrifie et l'autre est sacrifiée. Celui qui sacrifie n'hésite pas. Celui qui est sacrifié est en la gorge. » L'ange du Seigneur l'appela et dit, « Abraham, me voici. N'étends pas la main sur le garçon. Ne lui fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains le Seigneur, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux. Il vit qu'il y avait un bélier parmi les arbres, pris par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Puis Abraham rendit un culte. Il pria au nom de la parole du Seigneur. « Je t'en prie par l'amour qui est devant toi, Seigneur. Toutes choses sont manifestes et connues devant toi. Il n'y a pas eu de partage dans mon cœur dès le premier moment où tu m'as dit de sacrifier mon fils Isaac, de le réduire en poussière et cendre devant toi. Je me suis levé de bon matin. Prestement, j'ai mis à exécution tes paroles avec joie. J'ai accompli ta décision. Et maintenant, lorsque les fils d'Isaac se trouveront dans un temps de détresse, « Souviens-toi que leur père Isaac a été lié sur l'autel et entend la voix de leurs supplications. Exauce-les, délivre-les de toute tribulation, car les générations à venir diront, sur la montagne du sanctuaire de Dieu, où Abraham offrit son fils Isaac, Dieu lui est apparu. » Et l'ange du Seigneur appela Abraham et lui dit, « J'ai juré au nom de la parole, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils. » Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai tes fils comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. » Cette conclusion est très belle parce que nous voyons que Abraham fait cette prière. Lorsque les fils d'Isaac seront dans la difficulté, souviens-toi que Isaac a été lié sur l'autel. Et par le mérite d'Isaac, tu dois exaucer les prières de tous les enfants d'Isaac. Donc, toute une théologie du mérite, d'Isaac qui est repris et qui est très belle et qui est reprise. Donc, cette tradition synagogale qui montre bien que Abraham a été tenté. Non pas une fois, 10 fois. Et c'est la 10e tentation qui est relatée au chapitre 22 de la Genèse. Les pères de l'Église, déjà, si vous voulez, les prophètes, ont toujours rappelé que la paternité physique d'Abraham ne suffit pas. Si vous voulez être fils d'Abraham, il faut considérer vraiment Abraham comme votre père spirituel. Rappelez-vous ce que Jean-Baptiste affirme dans son évangile au chapitre 3. De ces pierres, Dieu peut faire surgir des fils à Abraham. Et Jean, au chapitre 8, 33, dira aux Juifs, si vous êtes des fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. L'unique postérité dans la généalogie de Matthieu, c'est Jésus, fils d'Abraham. Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Et pour saint Paul, dans la lettre aux Galates, que nous avons déjà citée, mais au chapitre 3, la lettre aux Galates, saint Paul dit que c'est la foi qui fait du croyant une descendance spirituelle. Il a part aux bénédictions spirituelles. Abraham crut, affirme le chapitre 15 de la Genèse, et c'est ça qui est fondamental. Et la patrie définitive, le pays que Dieu va nous promettre, c'est le sein d'Abraham. Chapitre 16 de l'évangile de Saint-Luc parle de ce sein d'Abraham, où tous nous nous retrouverons à la fin des temps. Si vous appartenez au Christ, vous êtes des descendants d'Abraham, vous êtes les héritiers selon la promesse. C'est toujours saint Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 3. Les patriarches participeront en place d'honneur au banquet du royaume. Saint Matthieu le rappelle au chapitre 8, au verset 11 de son passage. Tous ceux qui participeront au banquet du royaume seront assis avec les patriarches qui auront seulement la place d'honneur. Voilà donc l'importance de ce patriarche. Et dans la tradition coranique, je n'ai pas le temps de développer, Abraham tient une place considérable. Ibrahim, qui est appelé El-Khalil qui veut dire l'ami de Dieu. Je crois qu'il est cité 70 fois dans le Coran, et même dans les hadiths et ainsi de suite. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les trois grandes religions monothéistes se réclament du père Abraham, c'est leur père. Les juifs, c'est clair, sont nos aînés dans la foi. Dieu a choisi le peuple d'Israël par amour et a conclu avec Abraham son alliance. Cette alliance qui existe à jamais, n'a jamais été révoquée. C'est ainsi que les Juifs ont un rapport particulier avec les chrétiens. Nous partageons avec les Juifs la foi en Dieu qui s'est révélée tout d'abord au peuple d'Israël. Jésus, sa mère Marie, les apôtres, les premiers chrétiens étaient des Juifs. Ils entrèrent très tôt dans la foi du Christ. Mais il y a également des païens qui sont entrés, des non-Juifs. Et ils formèrent avec ces Juifs qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu une seule Église, Église qui est constituée de Juifs et de païens. Et c'est le Concile Vatican II qui a rappelé ce fait dans la déclaration Nostra Aetate en 1965. C'est pas si loin que ça.
Merci beaucoup, Père. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci pour tout ce que vous nous avez appris sur Abraham.
D'accord. La fois prochaine, ce sera Isaac, le fils d'Abraham.
Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce temps offert à nos auditeurs, Père.
Vous savez que l'Église mère de Jérusalem a introduit dans le calendrier liturgique la fête de Saint Abraham et de Sainte Sarah, qui est fêtée le 9 octobre. Et cette fête est très importante parce qu'elle nous rappelle nos racines juives. Elle nous met en mémoire que l'histoire du salut ne commence pas hier ni avant-hier. Et l'Église qui doit se convertir sans cesse doit s'inspirer de ces grandes figures du passé et les actualiser. C'est la foi d'Abraham qui nous manque le plus aujourd'hui.